10h, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
C'est l'islam au présent sur Beurre FM, le week-end, samedi, 10h, 11h, avec l'imam Abdelali. Comment allez-vous, imam Abdelali?
Ça va, pour une fois, je suis pas stressé.
Alhamdoulilah. Je suis tellement pas habitué.
À vous voir
si calme, j'ai presque envie de vous exciter.
Non, c'est parce que pour une fois, c'est l'inverse. Quand c'est toi qui arrives en retard.
Non, moi je suis là depuis bien longtemps.
Oui, je sais bien.
J'avais une réunion. Dans le plateau. Et voilà, heureusement, vous nous avez servi des cafés, Imam Abdelali.
Plaisir.
Vous avez été aux petits soins pour nous. Bien. Vous connaissez le principe de l'émission. Chaque semaine, on démarre cette émission avec un verbe coranique. Lequel est-ce cette semaine, Imam Abdelali?
Alors j'ai voulu rester dans le cheminement spirituel et donc j'ai voulu choisir une expression, un verbe que l'on retrouve à maintes reprises dans le Coran et qui bien sûr a pour objet de susciter la crainte, susciter du moins la foi et puis de motiver le croyant dans son cheminement spirituel. C'est tout simplement bien sûr le verbe craindre. En arabe ça se dit « khashiya ». Khashiya, donc avec un kh, et donc qui signifie craindre, tout simplement, redouter, appréhender ou ressentir de la peur. Voilà ce que c'est que le verbe khashiya, et son radical est le mot khashiya. Donc le mot khashiya, c'est la crainte, qui est un sentiment et un acte qui relève de la piété du cœur, bien sûr, puisque on parle souvent de la piété des comportements, des actes, des membres, ce qu'on appelle jawarih, taqwa al-jawarih, les yeux, de ce que tu vois, de ce que tu écoutes, de ce que tu fais, de ce que tu accomplis comme action. Mais il y a aussi le cœur. Le cœur, lui aussi, est concerné par la piété. Dans le Coran, quand Dieu nous évoque le fait de mettre en valeur et glorifier les rites de Dieu, il dit « Ala wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub ». Celui qui rend hommage et qui glorifie les rites de Dieu, ceci fait partie de la piété du cœur. Ou des cœurs, taqwa al-qulub au pluriel.
Alors de quoi il s'agit exactement, Imam Abdelali?
Alors, il s'agit tout simplement de craindre Dieu et de sa colère. Craindre Dieu, c'est susciter des frissons, c'est ressentir des frissons, de savoir qu'Allah, le Tout-Puissant, peut décider de te maudire, de te bannir, de te chasser, de te combattre parfois, tout simplement, et de te bannir de sa miséricorde divine, pour diverses raisons, qui bien sûr ont suscité son courroux, ont suscité bien sûr cette réaction divine dans lequel tu as fait l'objet d'une malédiction et d'une damnation de sa miséricorde. Donc on doit craindre, de la même manière que quand on a peur, on le fait pour préserver sa vie. On préserve sa vie des dangers qu'il peut y avoir autour de nous. Et bien là, le pire des dangers que pourrait subir l'être humain, c'est bien sûr ce qu'il y aura, son sort dans l'au-delà, ce qu'il y a après la mort. Dans le Coran, Dieu évoque justement cette crainte. Il dit « Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent, ceux qui craignent leur Seigneur frissonnent à l'entendre, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel de Dieu. » Donc nous avons à la fois un sentiment de crainte et un sentiment enfin d'espoir, et parce que l'on doute du bien de Dieu. Il ne faut pas que cette crainte suscite chez nous le désespoir de la miséricorde divine. Elle doit être simplement un booster, quelque chose qui nous motive. Alors c'est aussi, donc ce sentiment doit être réservé exclusivement à Dieu. Le mot craindre, le verbe craindre, est une réaction, un sentiment qui ne doit être réservé qu'à Dieu. Je ne devrais normalement que craindre Dieu. Dans le Coran, Allah le dit même à son prophète, quand à un moment donné il voulait se marier avec sa cousine, mais il craignait, justement le prophète, les qu'en dira-t-on ? Ouais, il s'est marié avec sa cousine parce qu'elle était mignonne, parce qu'elle était jolie. Et Dieu, dans le verset, dans Sourate l'Équalisée, dit « Wa tarsha an-nas wallahu ahqqu an tarshah ». Tu crains les hommes alors que c'est Dieu qui mérite plus ta crainte. Donc la crainte est quelque chose qui doit être réservé à Dieu. Quand tu disais à celui dans Sourate l'Équalisée, donc verset 35, Dieu dit quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Es-tu caché en ton âme ce qu'Allah allait rendre public? Tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne de la crainte. Donc voilà, la crainte est quelque chose d'exclusif à Dieu, contrairement à la peur. On peut avoir peur d'un lion, on peut avoir peur d'un danger qui nous menace, mais la crainte doit être quelque chose de réservé à Dieu.
Tout simplement parce que les lions à Paris, il y en a de moins en moins.
Non, je veux dire un lion, c'est-à-dire un animal féroce, une menace quelconque. Oui, c'est un exemple. Ouais. Parce qu'en arabe, souvent, on dit « insani khaf mil asad ». On dit souvent « on a peur du lion ».
Je sais, mais bon.
C'est souvent l'exemple que l'on donne, donc je n'ai fait que le traduire.
Un pitbull.
Un gros pitbull, un effectivement, gros pitbull. À Paris. C'est vrai qu'il faut contextualiser.
On croise beaucoup plus de pitbulls
que de lions. Ouais. C'est sûr. À part à côté, là, on a le zoo de Vincennes qui est pas très loin. Là. Il pourrait y avoir un danger.
Oh, ils sont pas bien méchants, les lions du zoo de Vincennes.
Donc, comme je disais, Philippe, il ne faut surtout pas confondre donc la crainte avec la peur. En arabe, la peur se dit al-khawf, qui lui est un sentiment humain instinctif qui permet de nous protéger des dangers de la vie. La crainte est-elle seule associée à un acte de vénération de celui que l'on craint? C'est donc un acte d'adoration. Mmh. Donc la crainte, c'est celle qui est associée d'une vénération. C'est une peur associée à une vénération. Vous avez tout un ensemble d'expressions où l'on va avoir, par exemple, quand on parle de remercier. Le verbe remercier. Vous avez remercié Dieu, c'est shukrullah, mais c'est surtout la louange. Mmh. C'est louer Dieu. Je loue Dieu. Et remercier Dieu, c'est le louer. Mais on ne peut pas louer un être humain. Donc, remercier Dieu, on utilisera le terme hamida, le verbe hamida qui veut dire louer. Hein? Mmh. Alors que pour un être humain, on va utiliser le terme remercier. Donc là, pareil, le verbe khafa, min al khawf, c'est le fait d'avoir peur. On peut avoir peur de Dieu et des créatures, mais on ne peut craindre que le Créateur et non pas les créatures. Donc voilà, c'est un petit peu pour dire qu'il y a parfois des expressions dans la langue arabe qui sont réservées à Dieu, que Dieu a décidé de s'accorder à lui-même.
Bien. À quoi ça sert la crainte finalement ?
Alors la crainte est un sentiment qui permet de se retenir, de commettre des turpitudes et de se motiver à accomplir ses obligations. Voilà, par exemple, la crainte de Dieu va t'empêcher... au moment où est-ce que le désir se ressent, les passions viennent te motiver, les souffleries démoniaques viennent t'encourager à commettre telle ou telle turpitude dont les plaisirs sont immédiats, mais surtout limités en temps, c'est-à-dire qu'elles sont temporaires, eh bien, elles vont te rappeler le châtiment éternel. Elles vont te rappeler le courroux de Dieu qui, lui, est beaucoup plus long et beaucoup plus, on va dire, dramatique. Donc, cette crainte d'Allah va te permettre de t'abstenir de commettre tout acte de turpitude, des actes de perversité, des péchés. Tu ne vas plus craindre le policier, tu ne vas plus craindre la loi, mais tu vas devenir un super citoyen grâce à cette crainte de Dieu, puisque tu ne vas pas avoir besoin d'un policier ou une caméra qui te surveille pour t'empêcher de commettre un acte répréhensible, mais tout simplement... La présence divine, qui elle est, comme tu le sais, est permanente et perpétuelle. Allah Azza wa Jalla, la tarfa alayhi khafiya, rien ne lui est caché à Dieu. Dieu voit tout et sait tout de tout ce que fait et de tout ce que pense même chaque créature qu'il a créée dans l'univers. Donc à partir de là, si je sais que Dieu me voit et si je sais qu'il peut me punir et qu'il n'aime pas justement que je commette des actes de turpitude, cette crainte va me permettre de me retenir, de provoquer chez moi cette retenue et aussi me motiver à accomplir tout un ensemble d'actes de piété, tels que par exemple les prières dans la nuit. La crainte de Dieu va me motiver à me lever la nuit pour prier. Cette même crainte va m'obliger à faire mes prières à l'heure. Cette même crainte va m'obliger à faire des dons aux pauvres, parce que je sais que c'est cette aumône que je ferai à un pauvre qui suscitera l'amour et la satisfaction divine. Et à partir de là, eh bien, cette crainte me sera à 100% bénéfique. Donc la crainte est donc l'un des plus grands signes de la foi du croyant. Elle est souvent décrite dans le Coran donc comme étant une source de la foi. Dans la sourate, par exemple, Zumar, les groupes, verset 23, Dieu dit dans le Coran: « Allahu nazzala ahsan al-hadithi kitaban mutashabihan mathani تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le livre guide d'Allah par lequel il guide qui il veut, mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Donc en gros, la crainte ne doit pas quelque chose qui doit rester en toi. Elle doit tout de suite être remplacée par l'apaisement et par l'espoir d'une récompense divine. Si on garde en soi cette crainte de manière perpétuelle, elle crée en nous le désespoir. Et c'est surtout pas ça l'objet. Il faut vraiment que la crainte me motive sur le coup à faire le bien et à m'abstenir de faire le mal. Mais tout de suite, elle doit créer en moi l'apaisement et husn dhanni billah, c'est-à-dire de penser du bien de mon Créateur, qu'il est pardonneur, qu'il est miséricordieux, qu'il est généreux, qu'il va me combler de ses bienfaits, qu'il va m'accorder sa satisfaction et son agrément. Et m'accorder l'accès au paradis en compagnie de tous mes proches et ceux que j'aime.
Faut pas rester craintif en permanence.
Voilà, exactement. Dans le Coran encore, Allah Azza wa Jalla parle de cette crainte. Il dit ceux qui de la crainte de leur Seigneur sont pénétrés. Hein, donc ils sont pénétrés, mais tout de suite elle est remplacée. On retrouve cette description du croyant dans la sourate La Royauté, sourate Al-Mulk, que l'on connaît, verset 12. Allah Azza wa Jalla dans le Coran: Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil-ghaybi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ceux qui redoutent leur Seigneur, bien qu'ils ne l'aient jamais vu, auront un pardon et une grande récompense. Qui redoutent, qui craignent, bien sûr, puisqu'il dit Yarshauna, le verbe Khashia, que l'on a évoqué au début de notre émission. Mais aussi dans la sourate 21, donc comme je le disais, où Dieu dit dans le Coran Alladhina yakhshawna rabbahum bil-ghayb wa hum min as-sa'ati mushfiqun. Ceux qui craignent leur Seigneur malgré qu'ils ne le voient pas et redoutent l'heure, hein, l'heure, la fin du monde, la fin des temps, le jour du jugement dernier. Ou est-ce qu'ils rencontreront leur Seigneur. La crainte est donc essentielle dans le cheminement spirituel du croyant, car elle constitue un booster et un moyen de se motiver à accomplir de nobles actions, de se préserver des péchés et autres actes détestables, qui déclencheraient la colère de Dieu et sa damnation. Un compagnon du prophète, qui s'appelle Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, a dit « Le croyant voit le péché comme un rocher. Il a peur que ce rocher lui tombe dessus. Alors que l'hypocrite, lui, voit le péché comme une mouche qui vient se coller à son nez et qu'il chasse d'un coup de main. Voilà la différence entre celui qui craint le péché et qui est croyant et celui qui, bien sûr, ne le craint pas et qui, lui, malheureusement, est imprégné d'hypocrisie. Donc elle est souvent associée au sentiment d'espoir de la récompense Dieu implorée implorer Dieu par crainte et par espoir. Ud'uhu khawfan wa tama'an. Tout de suite, il doit y avoir après la crainte, l'espoir, l'envie d'une récompense divine, car le mu'min, le croyant, doit être imprégné de ce sentiment de penser du bien de Dieu. Il dit Allah Azza wa Jalla est d'abord miséricordieux, est d'abord généreux, est d'abord pardonneur, est d'abord compatissant, est d'abord affectueux à l'égard de ses créatures et de ses serviteurs, et qu'il n'est pas un bourreau qui trouve du plaisir à châtier ses serviteurs. Il déteste, il souffre, il est triste même. Allah Azza wa Jalla ne souffre pas, mais on veut dire il est affecté. Il a un sentiment d'affection quand il voit ses serviteurs faire l'objet des raisons et des causes de leur châtiment. Le prophète lui-même, alayhi salatu wasalam, ne s'est pas épargné de demander à Dieu de lui donner ce don qui est la crainte d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est pour cela qu'il, dans ses invocations, il implorait de lui imprégner ce sentiment-là qui est la crainte. Il disait par exemple dans ses du'as, Allahumma inni as'aluka kalimat al-ikhlas fi al-ghadab wal-ridha wal-qasd fi al-ghina wal-faqr wa khashyataka fi al-ghaib wash-shahada. Je te demande, ô mon Créateur, de m'accorder ta crainte, que ça soit en absence comme dans le présent, en présence. C'est-à-dire que le croyant ne doit pas montrer de la crainte vis-à-vis de son Créateur quand il est en public devant les gens. C'est trop facile. Mais la crainte, c'est bilraïb, c'est-à-dire que quand personne te voit, c'est là où est-ce que tu dois vraiment montrer cette crainte et que tu dois manifester cette crainte d'Allah Azza wa Jal. Il disait le prophète alayhi salam muslim, Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'siyatik. Ô mon Dieu, accorde-nous une part de ta crainte qui nous préserve et qui nous écarte de toutes les turpitudes et de tous les péchés. Donc le prophète lui-même implorait Dieu de lui donner cette guidance qu'on a évoquée ou qu'on va évoquer peut-être la semaine prochaine, inchallah, cette guidance qui nous permet d'être préservés de la turpitude et de l'égarement. Cette crainte est une manière d'être guidé par Allah Azza wa Jal.
Bien. Imam Abdelali, dans un instant, vous allez nous raconter, comme chaque semaine, l'histoire. Alors, je peux vous dire que c'est l'histoire d'un grand professeur, un éminent savant en médecine, qui a été forcé par les éléments de répondre aux prières d'une vieille femme. Et je ne vous en dis pas plus, puisque vous nous racontez cette histoire dans un instant, Imam Abdelali.
L'islam au présent revient dans un instant. Heures, 11h, l'islam au présent sur Beurre FM.
Et vous le savez, chaque semaine, l'imam Abdelali use de ses talents de conteur pour nous raconter l'histoire d'un personnage. J'ai pas donné le nom du personnage que vous allez évoquer tout à l'heure,
Imam Abdelali. Alors, il s'appelle le docteur Hicham.
Bah, pour une fois que je pouvais le prononcer en plus.
Ah ouais, vas-y, dis.
Non, le docteur Hicham.
Ouais, d'accord.
Bon, okay. Super. Bien, alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi justement de nous raconter son histoire aujourd'hui?
Parce que elle est pleine de moralité et puis tu comprendras quand j'aurai terminé de te raconter l'histoire. Et souvent j'ai du mal même à terminer ce genre d'histoires qui sont extrêmement émouvantes. Donc c'est l'histoire d'un grand professeur qui est invité à se déplacer dans un autre pays que le sien pour aller, on va dire, animer une conférence, un colloque en médecine, parce que il est ce grand chercheur, ce grand professeur en médecine qui a des grandes capacités scientifiques à soigner des malades et des maladies parfois incurables, dont il est le seul à connaître le moyen de guérir. Et donc un jour, il prend donc l'avion pour aller se déplacer, pour répandre ses connaissances chez d'autres médecins dans le monde et pour propager son savoir et ses compétences. Donc il prend l'avion, mais l'avion fait l'objet d'une avarie en l'air. Il est touché par la foudre et le pilote informe ses passagers et leur dit « Voilà, nous sommes obligés d'atterrir dans l'aéroport le plus proche car nous avons une avarie. » Et notre avion ne pourra pas arriver à destination. Donc, bien sûr, il atterrit dans l'aéroport, d'un aéroport qui n'est pas l'aéroport concerné là où est-ce qu'il devait aller. C'est un autre aéroport qui est encore éloigné de sa destination finale. Et bien sûr, quand il sort à l'intérieur de l'aéroport, il va au service d'information qui leur dit « Voilà, moi je suis un éminent savant, j'ai une conférence dans pas longtemps et il faut impérativement que je me dirige vers ma destination finale, sinon je vais rater mon colloque. » Et là, la dame lui dit « Mais monsieur, excusez-nous, le prochain vol, c'est pas avant au moins une quinzaine d'heures, et en plus, le temps ne le permet pas, il y a la tempête, il y a la foudre, il y a tout ça, et nous avons imposé à tous les avions de rester au sol, donc on ne peut pas décoller tant que le temps ne s'améliore pas. » Et donc, il dit mais je peux pas attendre comme ça des heures et des heures à l'aéroport. Il dit mais écoutez, vous avez une solution, si vous prenez une voiture, vous louez une voiture et vous n'avez que 3 heures de trajet en voiture. Donc effectivement, il va louer une voiture, il a dit bah il faut que j'y aille à coûte que coûte que j'arrive pour arriver à l'heure à mon colloque, à ma conférence. Donc il prend la voiture, il roule, sauf que le temps est encore plus, mauvais que ce qu'il prévoyait. Notamment, des trompes d'eau tombent du ciel et il n'a pratiquement aucune visibilité sur la route. Ce qui l'oblige à s'arrêter. Il dit non, moi je peux pas continuer comme ça, je vais faire un accident si je continue à rouler avec toute cette flotte qui tombe du ciel. Et il s'arrête et à proximité de là où est-ce qu'il s'arrête, il y a un petit cours, c'est-à-dire une petite cabane bien isolée. Et il dit peut-être que ces gens vont m'héberger en attendant que la pluie s'arrête. Donc il toque à la porte et une dame derrière la porte dit « Entrez ». Il rentre et il trouve une vieille femme Et cette vieille femme lui dit, sois la bienvenue. Et là, il dit à la dame, madame, pouvez-vous me donner votre téléphone portable pour que j'appelle les personnes qui m'ont invité au colloque pour leur expliquer ce qui m'arrive? Il dit, monsieur, elle se mit à rire, elle a dit, mais monsieur, ici, vous savez, on est dans la campagne, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Mais par contre, je peux bien vous accorder le gîte, hein, vous donner un petit peu à boire et à manger, hein, vous réchauffer auprès du feu, peut-être que vous allez retrouver vos forces et puis profiter de ces moments pour vous reposer. Et donc, il accepte volontiers et il la laisse sur le côté. Elle est en train de prier et dans sa prosternation, elle fait des invocations. Elle dit Allahumma. Il l'entend dire Allahumma et puis mais il ne sait pas qu'est-ce qu'elle dit derrière. Allahumma quelque chose. Oh mon Dieu quelque chose. Et elle ne sait pas quoi. Il ne sait pas quoi, qu'est-ce qu'elle dit. Quand elle a terminé, il lui dit, madame, mais je vous vois prier beaucoup, faire des invocations. Est-ce que Dieu a exaucé vos prières? Elle a dit, oui, Allah a exaucé toutes mes prières, sauf une. Il dit, c'est quoi? Et là, la maman montre du doigt un lit où il y avait un enfant qui était en fièvre, qui était allongé, qui était presque dans un état comateux, avec une fièvre extrêmement élevée. On voyait la sueur sur son front et il tremblait et frémissait tellement il était malade. On voyait bien qu'il était très malade, cet enfant. Et elle dit, j'ai invoqué Allah de tout ce que je voulais. Il m'a donné tout sauf une invocation. C'est quoi? C'est que voilà, mon fils est atteint d'une maladie. Et quand j'ai été voir tous les médecins, ils m'ont dit, il n'y en a qu'un seul médecin au monde qui peut soigner ton fils de sa maladie. Et là, il a dit, mais c'est quoi sa maladie? Il a dit, c'est la maladie Intel. Et seul le docteur Hisham est capable de soigner cette maladie. Et là, ce grand docteur, ce grand professeur éminent s'est mis à pleurer et il a dit, Allah a déchaîné la nature, a déchaîné le temps pour m'imposer de venir chez toi, grâce à tes invocations. Ce sont tes invocations qui ont provoqué ce déchaînement de la nature, c'est-à-dire du temps, et a provoqué cette tempête, et qui m'a obligé à venir jusque chez toi pour que je réponde, pour que puisse être exaucée ta prière. Et c'est donc ta prière dans ta prosternation qui m'a obligé et qui m'a imposé de venir jusque-là. Je suis le docteur Hisham. Et là, la femme était contente qu'Allah Azza wa Jal lui a enfin exaucé même sa dernière invocation et sa dernière prière. Et effectivement, ce docteur prit tout de suite dans la voiture l'enfant et l'emmena pour le soigner et s'occuper de lui. Et alhamdoulilah, il retrouva la forme et la santé qu'il souhaitait, bien sûr. Alhamdoulilah, grâce aux invocations, combien il est important d'invoquer Dieu. Surtout quand on est face à des impasses, on se dit, il n'y a pas d'issue à mon problème, je n'ai pas de solution à mon problème. Eh bien si, il y a toujours une solution. La solution, c'est de s'en remettre à Allah Azza wa Jal. De non pas regarder devant soi pour voir le mur qui nous empêche d'atteindre notre objectif, mais de regarder dans le ciel pour trouver celui qui est tout puissant et qui est capable de débloquer toutes les choses et de trouver des issues à tous nos problèmes et à toutes nos impasses.
Gérard, voilà. C'est une histoire que vous avez adaptée à la modernité ou qui
Non, c'est une vraie histoire.
Ah, c'est une vraie histoire.
Le docteur Hisham existe.
Ah oui, d'accord, parce que j'ai
elle est extrêmement répandue.
Il y avait des avions, il y avait les téléphones portables d'habitude, il n'y a pas tout ça dans cette histoire.
C'est une histoire contemporaine du docteur Hisham qui existe. Le docteur Hisham lui-même raconte l'histoire. C'est lui-même qui a diffusé cette histoire sur internet et qui a raconté l'histoire de ce qui lui est arrivé.
Merci de la partager avec nous. Nous avons Nadia au standard qui patiente au 01 53 40 3000. Bonjour Nadia.
Oui, bonjour Philippe. Bonjour Al-Hajj.
Bonjour, salam alaykoum.
Salam alaykoum.
Salam wa rahmatoullah.
Donc Al-Hajj, moi je voulais savoir, parce que depuis que ma grand-mère, la yarhamha, elle est partie, donc je pense à elle. Mm-hmm. Donc je vais y venir. Donc elle habitait sur le même palier que moi. Mm-hmm. Et un soir, elle vient, elle me dit, ma fille, j'ai rêvé qu'on portait une femme dans un cercueil. Et le lendemain matin, ma grand-mère se lève, elle fait son café, elle boit son café, et puis, excusez-moi, je suis encore émue.
Madame, je suis désolée, là, vous êtes en train de me parler d'un rêve, c'est ça?
Oui, mais c'est pas ça, je vais venir, Hajj.
Ah, d'accord, parce que l'interprétation des rêves, c'est pas mon fort.
Son café. Et elle s'assoit sur son canapé, et à ce moment-là, il y avait des piqûres, vous savez, de remontant. La personne est fatiguée. Alors l'infirmière, elle vient, elle dit, penchez-vous, madame. que pour je puisse vous faire la piqûre. Mm-hmm. Donc ma grand-mère a commencé à se pencher. Et puis, voilà. Puis après, elle a dormi pour toujours.
Mm. Mais donc, ça, c'est dans la réalité qu'elle lui a fait une injection et elle est morte.
Non, elle n'a pas eu le temps de faire.
Non, mais c'est dans le rêve que vous voyez ça ou bien c'est dans la réalité?
Non,
l'injection d'infirmière, la piqûre.
Elle n'a pas eu le temps de lui faire.
Ah, mais on parle dans la réalité, on n'est pas dans le rêve, là.
Non, elle est dépend chez vous pour que je puisse vous faire l'injection.
Et à ce moment-là, elle s'est penchée, elle est morte.
Elle a commencé à se pencher, et puis voilà, elle est partie.
D'accord. Allah yarhamha.
Voilà, mais moi...
Rabbi yarhamha yussi alayha. Allah il accomme de sa miséricorde. Elle est décédée il y a longtemps, votre grand-mère?
Oui, il y a longtemps. Elle est décédée à 100 ans. Mais ce qu'il y a, ma grand-mère était... Et au moment de la prière, elle dit, Yarbé, tant que j'ai la santé, je veux vivre. Je ne l'ai plus, je veux partir. Donc elle a dit, même sabda arusa, donc elle était comme ça.
Hani Allah, je ne peux que vous féliciter et la féliciter d'avoir eu une bonne fin. Hein. La bonne fin, c'est très important, c'est même l'essentiel de notre existence. C'est an yakuna lana husnul khatima, c'est d'avoir une bonne fin. Et parce qu'on ne sait pas quand on va mourir. Et donc, si on adore Dieu, c'est pour justement bien terminer notre vie dans la foi et dans la piété.
Ah oui, mais vraiment, c'est pas
et dans la bienfaisance.
Ma grand-mère, l'Hajj, c'était pas parce que c'était ma grand-mère, mais elle était formidable.
Mashallah.
Bon, elle vivait en Algérie. Après, elle est rentrée à Oujda quand il y a eu la guerre en Algérie. Mm. Elle me racontait tout. Hein. Elle m'a dit qu'il y avait plusieurs familles, dont la mère du président actuel et tout. On vivait à Oujda. Mm. Quand la guerre est terminée, elle rentrait à Marmia, de Marmia.
Allah birham, Rabbi irham jami' mawt al-muslimin, qu'Allah comble de sa miséricorde toutes les âmes.
Elle a dit, la fille, faut pas dire de, quand vous en dites du mal de vous, c'est rien, allez de réoublier, c'est pas grave. Donc allez, vous rentrez pas chez elle sans qu'elle avait à l'époque elle avait un petit sac en tissu où elle mettait sa semoule. Non, vous sortez pas, faut qu'elle fasse quelque chose, il faut que voilà.
Elle était généreuse.
C'était voilà, et puis elle avait un prénom tout prédestiné. Elle s'appelait Oumoul Khair.
أم الخير ما شاء الله عليها.
Voilà.
الله يرحمها ويوسع عليها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. Je profite de ce moment pour faire des doigts à tous les défunts, les proches de ceux qui nous écoutent, même ceux qui nous écoutent pas. Qu'Allah Azza wa Jal comble de sa miséricorde et transforme nos tombes en vergers du paradis et nous épargne des châtiments de la tombe et de l'enfer.
Les pauvres كلش كنت كلمهم روحوا عاونوني طيبوا كلش une fois que c'était prêt, aller rassembler tous et puis manger ensemble.
Masha'Allah.
Puis après, elle est venue aussi en France, dans le Nord, parce que ses oncles étaient mineurs, ses fils, ses oncles étaient mineurs. Mm. Mais une fois, elle a disputé ma cousine. Parce que ma cousine, dans le Nord, elle était partie avec elle, elle lui a dit, oh bah toi, je t'ai lavé les rideaux. Elle a dit, ma grand-mère, elle a dit, haram alik. Vous faites du bien comme ça, tout le trastro en disant des paroles comme
c'est
ça.
C'est vrai, il faut pas rappeler le bienfait que l'on fait. Dieu dans le Coran, il dit, ne faites pas suivre vos bonnes actions par des rappels et par des propos qui agressent et qui rappellent le bienfait de ce que l'on a fait. Quand on fait quelque chose, on ne le rappelle surtout pas à la personne. Ça, c'est très important.
Bien. En tout cas, merci d'avoir partagé cette histoire avec nous, Nadia, d'avoir évoqué votre grand-mère. C'est vrai que pour beaucoup d'entre nous tous, les grands-mères, ce sont des personnages importants. Mmh. Voilà. Merci, Nadia. Dans un instant, alors, l'imam Abdelali répondra à vos questions et répondra à une question d'auditeur qui est arrivée cette semaine. Justement, on reste dans la famille, imam Abdelali. On verra dans un instant quels sont les droits et les devoirs vis-à-vis des beaux-parents.
L'islam au présent revient dans un instant.
Revient dans un instant.
Heures, 11h, l'islam au présent sur Beurre FM.
Imam Abdelali, quels sont mes droits et mes devoirs vis-à-vis de mes beaux-parents? Alors, est-ce que par exemple, si on prend le cas d'une épouse, dont le mari lui demande d'aller voir très souvent ses parents, de faire le ménage et d'y aller très 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 souvent.
Donc d'aller voir ses beaux-parents.
C'est-à-dire les parents de son mari.
Voilà. Donc, et est-ce qu'elle donc doit être, elle est obligée d'obéir à son mari pour aller donc en gros entretenir.
En gros, c'est ça.
Entretenir ses beaux-parents, s'occuper d'eux, prendre soin d'eux, etc. Alors, je vais donner deux réponses. Je vais donner une réponse morale et une réponse juridique. D'un point de vue juridique, il n'y a aucune obligation pour la belle-fille d'aller s'occuper de ses beaux-parents. Il n'y a pas en islam un devoir religieux, juridique, charaï, comme on dit en arabe, qui demanderait à une belle-fille de s'occuper de ses beaux-parents. Et en aucun cas, il l'est demandé. Donc il n'est pas question à une belle-fille, du moins un mari, de dire bah, va t'occuper de mes parents parce que je leur dois une noblesse de caractère, je leur dois une bonté pieuse qu'on appelle birr al-walidain ou ta'at al-walidain. Donc moi, la manière que je fais pour répondre à cette injonction divine, c'est d'envoyer ma femme pour faire le boulot à ma place. Eh bien, je dis non. Moi, je réponds, et Dieu, bien sûr, répond non. Hein, c'est pas à la belle-fille de s'occuper de ses parents, de ses beaux-parents. C'est aux enfants, d'abord, de s'occuper d'eux. Donc, si des personnes ont des enfants, c'est d'abord aller aux enfants de s'occuper d'eux quand ils deviennent âgés, quand ils deviennent quand ils ont un âge avancé. C'est aux enfants d'assumer leurs devoirs et leurs obligations vis-à-vis de leurs parents. Et d'un point de vue moral, bien sûr, la belle-fille est invitée à répondre à la requête de son mari. Donc c'est déjà une première chose moralement, on va dire, appréciable par Dieu, qui permet à cette femme-là d'obtenir la satisfaction divine et d'obtenir une grande récompense. Non seulement d'avoir répondu à la requête et à la demande de son mari, mais surtout, bien sûr, d'avoir accompli tous ses actes de bonté pieuse, de ses actes de générosité, d'entretenir, de prendre soin de ses beaux-parents, de les laver, de les habiller, de faire le ménage à la maison, de leur faire à manger, etc. C'est du travail. C'est du travail. Mais en aucun cas, on peut dire que c'est un devoir. Ce n'est pas une obligation pour la belle-fille de faire ça pour ses beaux-parents. Donc, si une belle-fille dit non, moi, j'ai déjà des parents à qui incombe de ma part de m'occuper d'eux, je n'ai pas l'obligation de faire un double travail et de m'occuper aussi de mes beaux-parents. Surtout si ces parents-là ont des enfants et des filles et des garçons. C'est aux enfants. Et en même temps, j'ajouterais à cela qu'il est dommage pour ces enfants de gâcher l'opportunité de gagner cette immense récompense qu'Allah Azzawajal accorde à ceux qui entretiennent et qui prennent soin de leurs parents. De leurs parents, pas de leurs beaux-parents, de leurs parents. D'abord, c'est à moi d'assumer ce que mon père, ce que ma mère a besoin. Donc, c'est pas à ma belle-fille, c'est pas à mon beau-fils de venir et de faire le nécessaire à ma place. Je suis en train de gâcher l'opportunité et l'occasion de gagner une quantité incommensurable de récompenses divines, hein, que de gâcher cette opportunité et de laisser quelqu'un d'autre et déléguer ce rôle à quelqu'un d'autre qui n'est pas son rôle et de perdre toute cette opportunité que je regretterai bien sûr bien après la mort de mes parents et voire même après ma mort quand je rendrai des comptes devant Allah Azza wa Jalla.
Asma est au standard de l'islam au présent au 01 53 48 3000 et Asma nous appelle de Montpellier. Bienvenue Asma.
Oui, bonjour, merci. Alors, je vous appelle parce que je voulais savoir... bonjour, Imam Abdelaziz.
Ouais, d'accord, d'abord salam alaikum, effectivement.
Merci, salam alaikum. Je voulais savoir comment s'appelle le docteur Hicham dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le nom de famille.
Ah bah écoutez, je n'ai pas le nom de famille, j'ai pas encore eu le temps de chercher, je vous cache pas, mais je vous promets inchallah que ultérieurement je essaierai de faire le nécessaire pour avoir le nom exact et le pays et d'où il vient, etc. L'histoire elle est sur internet, elle est racontée que l'on rentre dans les détails. Peut-être que c'est lui qui n'a pas voulu que l'on sache pour ne pas être dans l'ostentation et qu'il n'a raconté cette histoire-là que pour justement encourager les gens à faire des invocations, c'est-à-dire à profiter de des bienfaits de cette histoire, et non pas pour faire de l'ostentation et dire que moi un tel transformer la visée par une autre qui est mauvaise, qu'on appelle l'ostentation al-riya et le sum'a, ce qu'on appelle le fait de se vanter d'avoir fait du bien et d'avoir accompli des actes, etc. Donc il a pour cela gardé son nom anonyme. Et peut-être que, inchallah, si on cherche un peu et on creuse, peut-être qu'on trouvera l'identité exacte de ce personnage. Mais bon, moi, franchement, ça ne m'intéresse pas trop. Hein. Ce qui m'importe, c'est surtout l'histoire et la moralité de cette histoire.
Oui, sauf que moi, ça m'intéresse. Mais bon, j'ai bien compris, donc... Je vais faire
pourquoi, pourquoi ça vous intéresse?
Puisqu'il est capable de soigner pas mal de maladies.
Ah, vous cherchez, parce que vous cherchez un médecin qui peut guérir pas mal de maladies, c'est ça?
Eh oui, oui.
Mais vous n'avez pas besoin de cette histoire pour ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, il existe pour chaque spécialité, pour chaque maladie, notamment les maladies orphelines, les maladies rarissimes, incurables notamment, des spécialistes. Et donc là, en l'occurrence, ça peut être rien à voir avec... la maladie dont vous êtes concerné. Et donc non, je pense que le mieux c'est de rechercher à travers les réseaux médicaux le ou les spécialistes et qui pourraient traiter une maladie dont vous êtes concerné ou concerné par un de vos proches, je sais pas. Donc voilà, donc c'est pas, l'objectif c'est pas de savoir que qui est le médecin pour que je puisse aller lui demander de me soigner. Non, c'est pas ça l'histoire. Vous détournez l'objet et la finalité de l'histoire. Hein, c'est pas l'important de savoir quelle est la spécialité du médecin. L'important, c'est de savoir que quand on fait des invocations, Allah Azza wa Jalla, il exauce nos prières.
Oui, oui, plus important, oui, c'est ça, voilà. Oui, je pense.
Si on est
okay,
sincère.
Bon, merci quand même.
Merci Asma pour votre
bonne
appel.
Bonne journée. Au revoir.
Alors, de Montpellier, nous allons à Marseille. Imam Abdelali, c'est Nordine qui nous appelle au 01 53 48 3000. Oui, Nordine, bienvenue.
Allô, Cheikh Abdelhamid Mamoun, Philippe, salam alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatuh.
Alaykoum salam wa rahmatoullahi.
Je vais faire vite, j'ai deux petites questions très courtes. La première, c'est que des fois, quand je fais la prière, soujoud, je me rappelle plus si j'étais par exemple 4 ou 3. Ça, c'est ma première question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je refasse?
Non, tu ne refais pas. Tu te bases sur le minimum. Si tu dis 3 ou 4, bah, ça veut dire 3. Si tu dis 2 ou 3, c'est 2. Si tu dis est-ce que j'en ai fait une ou deux, bah, c'est une. Mais attention, à la fin de ta prière, il faudra ajouter deux prosternations de l'oubli. Ce qu'on appelle sujud de sahou. Tu te prosternes deux fois pour punir le diable, le démon, de t'avoir détourné de ta prière et de t'avoir, on va dire, empêché de te concentrer, voilà. De t'avoir enlevé de ton prochain.
Voilà. Ça c'est fait. Ma deuxième question est que des fois quand je fais la prière et ça, j'ai fini par exemple le Dohr ou l'Asr, je ne suis pas satisfait de moi. On dirait que c'est quelque chose qui me dérange, c'est-à-dire je le fais juste pour, comme ça vite fait et je ne suis pas content de moi, voilà. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire à ce moment-là. Je fais ma prière et des fois je ne suis pas content de ce que j'ai fait.
C'est pas grave, c'est pas grave, Akhouya. Surtout ne pas refaire sa prière, parce qu'on n'a pas le droit de refaire une prière obligatoire deux fois au même moment. La même prière, on ne la refait pas. Je réponds à ta question. Je réponds. Donc, par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est par exemple de faire une prière surérogatoire, ce qu'on appelle el-rawatib, qui sont soit avant ou après les prières obligatoires. Et là, par contre, d'essayer de faire un effort de concentration et d'être plus présent dans sa prière lors de cette prière surérogatoire, parce que ta prière obligatoire n'aura pas été satisfaisante. Donc, tu vas essayer de combler cette négligence à travers cette prière surérogatoire que tu vas faire après. Mais en tout cas, ta prière est valable. C'est très important qu'il faut comprendre que on ne peut pas, à chaque prière, rester concentré à 100%. C'est pas possible. Personne ne peut prétendre ça. Personne, même les sahaba n'étaient pas à 100% concentrés dans leur prière. Donc, c'est un cheminement, Khoya, c'est un cheminement. La prière a pour objet de dire, voilà, j'étais pas concentré dans cette prière, mais j'essaierai dans la prochaine, si j'étais, par exemple, à 40% concentré dans celle-là, d'être 45% concentré dans la suivante. Et dans la suivante, à 50%, et ainsi de suite. Essayez d'améliorer. Donc le lien que l'on a et la spiritualité que l'on essaye de susciter dans sa prière au fur et à mesure que l'on chemine vers Allah Azza wa Jal dans sa vie.
Merci, c'est gentil à vous. Assalamu alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam.
Sallallahu alayka at-tawfiq wal hidayah wa an yazidana wa iyyak imanan da'ima.
Merci Nordine. Samir est avec nous au 01 53 48 3000. Bienvenue Samir.
Allô.
Oui, Samir.
Allô.
Oui, Samir.
Salam alaikum.
Wa alaikum salam.
En fait, moi, j'ai pas une question, j'ai juste une petite réflexion par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, par rapport aux beaux-parents.
Allez, bienvenue, mon frère.
En fait, moi, je vois pas de la même manière que vous la façon dont vous avez détaillé la chose. C'est que moi, je pense que même les beaux-parents, c'est quand même nos parents. Nous, on a une tradition, enfin, je suis d'origine.
Voilà, c'est pour ça que j'ai soulevé la question. C'est parce qu'on mélange tradition et religion.
Non, j'ai bien précisé tradition.
Oui, ouais, je sais bien. Mais la tradition, c'est pas la religion.
Non, c'est pas la religion. Mais quand même, je pense que quand même, en faisant ça à nos beaux-parents, on a quand même Adjal Kabir quand même.
Est-ce que c'est ce que j'ai pas dit? J'ai dit justement que la belle-fille qui va moralement faire cet acte-là aura une immense récompense. Mais ce que je voudrais aussi rappeler, c'est aux enfants. Pourquoi déléguer ce rôle à une tierce personne qui est presque une étrangère d'un point de vue sanguin, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun lien de sang avec les parents? Ce sont les enfants, les kharjum kharjumhum, qui sont sortis du ventre de leur mère, qui sont les enfants de ces deux géniteurs, normalement d'assumer ce devoir-là. Donc pourquoi déléguer à une tierce personne? Maintenant, si la belle-fille elle a envie de donner un coup de main à ses belles-sœurs ou à ses beaux-frères ou à son mari qui est le fils aussi de ses parents-là, de ces vieux de ces personnes âgées, eh bien pourquoi pas? Ça dit voilà, s'il y a un tanafo, c'est-à-dire une concurrence à faire le bien, l'un lui met le coussin derrière le dos, l'autre lui apporte un café, l'autre lui fait un massage, l'autre lui fait prendre la douche, l'autre lui fait le ménage, l'autre lui fait la vaisselle, l'autre qui lui lave son linge, chacun accomplit de manière concurrentielle. S'il y avait cette concurrence, je ne suis pas du tout contre, au contraire, je ne peux que l'encourager, y compris vis-à-vis des belles-filles. Mais c'est d'abord un devoir des enfants.
Je vous raconte juste une petite histoire me concernant. Mon papa, il est fils unique, enfin garçon unique, il a deux sœurs. Les deux sœurs, ils ne se parlent même pas avec leur maman, d'accord? Et ma grand-mère...
Attends, il est fils unique, mais il a deux sœurs. Comment il arrive à faire ça?
Non.
Comment il arrive à être fils unique et à avoir deux sœurs? Il n'est pas fils unique s'il a deux sœurs, regarde.
Non, c'est. Ouais, mais si vous
voulez. C'est le seul garçon.
Ah, c'est le seul garçon, Gouli, voilà.
Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit les
parce que quand on est fils unique, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul enfant.
Non, j'ai dit garçon unique.
Ah, oui, d'accord. Et il n'a que deux sœurs.
Rattrapé. J'ai garçon unique et il a deux sœurs. Ces deux sœurs ne parlent pas avec leur maman. Ils sont partis, etc. Ils donnent aucun signe de vie. Mon papa a gardé ma grand-mère. Est-ce que c'est mon papa qui va faire ma grand-mère? Ma maman, elle l'a fait, elle l'avait avec un grand plaisir. Et ma grand-mère, elle est décédée, elle est partie dans de très très bonnes conditions. Elle a fait ça avec un grand
idéalement,
plaisir.
Idéalement, toutes les personnes qui entourent, Akhoya, toutes les personnes qui entourent leur grand, le père, c'est le père ou la mère qui est vivante?
C'est la maman.
La maman, cette maman, cette vieille femme qui a besoin d'être entretenue, c'est d'abord à son fils de se soucier que le travail soit fait, c'est-à-dire qu'elle soit convenablement entretenue, soit par lui-même, soit en déléguant une autre personne. Il la paye ou bien cette personne dit « voilà, moi je vais le faire fi sabilillah ». Mais en tout cas, ça doit être fait. Donc le souci primordial de votre père, c'est d'entretenir sa mère. Il faut que le travail soit fait, soit par lui, soit par une autre personne. Il est le seul responsable. C'est lui qui a ce devoir-là. C'est un devoir. Wajib. Amma al-akharin fa min fadlihim wa min ihsanihim wa min sadaqatihim an ya'tanu bihadhihi al-mar'a ash-shibaniyya al-kabira. Amma huwa la wajib huwa alayh. C'est une obligation pour lui. Voilà, Khoya, je peux pas m'éterniser.
Voilà ce qu'on pouvait dire, Samir. Et on peut pas aller plus loin puisque l'émission est terminée. Merci pour vos appels. Imam Abdelali, c'est Allo l'Imam sur YouTube pour tous ceux qui vous suivent.
Vous allez retrouver mes chroniques et capsules qu'on appelle.
Rarité, capsule.
Ah, si, mais c'est le terme.
Non, mais non, capsule, c'est des capsules. Capsule, c'est spatial, c'est sur une bouteille. Voilà. On appelle ça des vidéos.
Je te promets que c'est marqué capsule. Des vidéos, voilà. Des petites vidéos, des chroniques.
Maintenant, on retrouve l'Imam en capsule, vous vous rendez compte. J'ai pris mes deux capsules. L'imam ce matin, j'ai la pêche
pour
la journée.
Bientôt, notre nourriture, ça sera des capsules.
Non.
Alors, je donne mon numéro, le 06 29 25 35 00. Je répète, 06 29 25 35 00. Il y a encore des places pour la Omra du mois de février. Inscrivez-vous pour ceux qui ont envie de venir.
Imam Abdelali.
Le 19 jusqu'au 3. 19 février au 3 mars, inshallah. Donc, pour 12 jours de, à Médine et à Mecca, en ma compagnie, pendant tout le trajet, je serai avec vous, inshallah, aller-retour. Jusqu'à notre retour, je serai avec vous. Appelez-moi pour ceux qui veulent y participer. Ou déléguer une personne, un étudiant à Médine, pour le faire pour une personne décédée. Donc, au 06 29 25 35 00.
Bien, Imam Abdelali, la semaine prochaine, dans un instant, Maître Serran est là avec vous pour C'est tout droit.
C'était l'Islam au présent avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun sur Beurre FM.